France Culture. Le journal, Diane Berger.
Bonjour à toutes et à tous, il est 9h. Nous irons à Jérusalem dans quelques instants, la ville secouée par d'importantes frappes de l'Iran ce matin. Téhéran réplique après l'intervention des États-Unis. C'est une première dans le conflit commencé il y a 10 jours. Jusque-là, Washington se contentait d'un soutien purement défensif auprès d'Israël. Mais des bombardiers américains ont attaqué la nuit dernière 3 sites cruciaux pour le programme nucléaire iranien. L'actualité internationale qui vient percuter le monde de la culture. 18 films iraniens sont présentés en ce moment dans le cadre d'un festival de cinéma à Paris. Un contexte difficile pour les cinéastes sélectionnés, souvent imprégnés du mouvement anti-régime Femmes, Vie, Liberté. Et puis nous reviendrons sur les opérations policières menées ces derniers jours contre des migrants en France. Des contrôles aux faciès discriminatoires selon plusieurs associations et syndicats. Après des jours de flou autour d'une possible intervention en Iran aux côtés d'Israël, Washington a finalement frappé. Des bombardiers américains ont attaqué 3 des principaux sites nucléaires iraniens la nuit dernière, Isfahan, Natanz et Fordo. Jusque-là, depuis le début de l'offensive israélienne sur l'Iran le 13 juin, Washington avait seulement apporté une aide défensive. Avec cette intervention militaire directe des États-Unis, les Iraniens parlent d'un acte barbare qui ne restera pas sans conséquences. Téhéran vient de lancer 2 vagues de missiles vers Israël. On rejoint à Jérusalem notre correspondant. Bonjour Thibault Lefèvre.
Bonjour Diane, bonjour à tous.
Thibault, des missiles ont fait 14 blessés côté israélien.
Oui, 27. Bilan qui vient juste d'être mis à jour. Les Israéliens ont en effet été réveillés par une première alerte. Alerte pour prévenir d'un possible impact de missiles. Il était 6h30, heure de Paris. Les Israéliens ont à ce moment-là 10 minutes pour se mettre à l'abri. Sur le chemin de la cave, j'ai rencontré Shalimi. C'est une femme de ménage d'origine indienne. C'est ici le premier jour de la semaine. Elle était dans la rue, en route pour le travail, et elle était pétrifiée.
It's so scary. I'm standing here and it's so suddenly passing. You see?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 missiles qui passent au-dessus de nos têtes. 7.
Oh my god. It's so scary. In the middle is going my head up. Help me, Jesus, please.
Et puis, une deuxième alerte a retenti. C'est le moment où les Israéliens n'ont plus que quelques secondes pour se mettre à l'abri.
Allez, go! It's here, underground.
Yeah?
Yeah. On arrive à l'abri dans la cave.
Oui.
Là, on vient d'entendre une explosion comme on n'a jamais entendu lors des 9 précédentes nuits.
You took your radio.
Le voisin a pris sa radio. C'est la seule manière de se tenir informé.
Un bon vieux transistor parce qu'il n'y a pas internet, vous l'avez compris, dans les vieux abris souterrains de Jérusalem. 27 missiles ont été envoyés donc tout à l'heure sur Israël, essentiellement sur la côte autour de Tel Aviv et d'Haïfa. 27 blessés, comme je vous le disais, c'est un bilan provisoire.
Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem pour France Culture. On vient donc de l'entendre, Téhéran n'a pas attendu pour lancer une vaste offensive en représailles contre Israël. Il faut souligner que les sites nucléaires frappés par les États-Unis la nuit dernière étaient cruciaux pour le programme nucléaire iranien. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour.
Selon Donald Trump, le président américain, les capacités d'enrichissement d'uranium du pays sont désormais complètement détruites.
Oui, Donald Trump a notamment annoncé qu'une pleine charge de bombes a été larguée sur le site principal de Fordo. Sa seule les États-Unis pouvaient le faire tant ces installations sont enfouies. Fordo, à 150 km au sud-ouest de Téhéran, est le site nucléaire iranien le plus secret, qui était le mieux gardé. Un site d'enrichissement d'uranium enfoui sous une montagne constituée de 2 salles conçues pour accueillir 3000 centrifugeuses. Son existence avait été révélée en septembre 2009 par les présidents français Nicolas Sarkozy, américain Barack Obama et le premier ministre britannique de l'époque Gordon Brown. Les services de renseignements occidentaux étaient convaincus que le site enfoui sous 80 à 90 mètres de roche, voire plus, était destiné à la production clandestine de matières fissiles à des fins militaires. L'AIEA a ensuite pu visiter les lieux. L'Iran ensuite avait accepté de le transformer en installation de sites de recherche. Mais l'enrichissement d'uranium avait repris en 2019 après la dénonciation américaine de l'accord. 3 ans plus tard, le degré d'enrichissement y atteignait 60% et en 2023, les inspecteurs de l'AIEA y découvrent découvrait de l'uranium enrichi à plus de 83%. Autre site visé cette nuit, Natanz et Ispahan. À Natanz, 220 km au sud de Téhéran, il s'agit d'une usine d'enrichissement d'uranium et non loin de là, à Ispahan, c'était le principal pôle de recherche de la République islamique où travaillaient 3000 scientifiques.
Merci beaucoup Virginie Pironon. L'évolution du conflit inquiète les pays alentours. Le gouvernement irakien dénonce les frappes américaines qualifiées d'escalade militaire qui met gravement en péril la stabilité régionale. L'Arabie Saoudite exprime également sa grande préoccupation ce matin. Et pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la situation constitue, je cite, une menace directe à la paix et à la sécurité dans le monde. Par ailleurs, les autorités iraniennes viennent d'exécuter un homme qualifié d'agent du Mossad, le service de renseignement israélien. Téhéran a procédé à de nombreuses arrestations d'espions présumés ces derniers jours en réponse à l'offensive de l'État hébreu. C'est dans ce contexte international qu'à Paris se déroule en ce moment même le Festival Cinéma d'Iran. 12e édition cette année, elle a commencé mercredi dernier et elle a bien failli ne pas avoir lieu en raison du contexte. Les organisateurs avaient hésité à maintenir l'événement. Finalement, certains n'ont pas pu faire le déplacement, mais les organisateurs ont tenu à montrer leur travail au public. Fiona Mogadam.
Maintenir cette édition était aussi une manière de résister pour Nader Takmil Omayoun, le président du Festival Cinéma d'Iran.
Annuler le festival était quelque part aussi aller dans le sens de la guerre, se dire qu'on arrête tout, et ce n'était pas le cas, c'était un cri de résistance aussi, pour dire non, nous on continue, la vie continue, on a tous peur, mais il faut aussi montrer que la guerre ne détruit pas tout.
C'est bien de l'Iran d'avant-guerre que témoignent les 18 films présentés cette année, avec une particularité, l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes, souvent imprégnés du mouvement Femme, Vie, Liberté, qui fait fi de la censure. Nahal Kaknegar est chargée de la programmation.
De jeunes cinéastes iraniens ont décidé de ne plus aller chercher l'autorisation de projection, l'autorisation d'écriture de scénario, traverser tout ce parcours de combattants pour que le film soit projeté finalement pour le public iranien, et qui finissent même parfois à faire des films underground. On voit bien évidemment les actrices sans voile, on voit les fêtes, on voit de l'alcool.
Deux des cinéastes sélectionnés pour cette édition vivent toujours en Iran. Ils devaient participer au festival, mais impossible de partir avec la guerre. L'un d'eux, Saand Kabiri, a envoyé une lettre à destination du public, résumée par Nahal Kaknegar.
Je ne pense plus à mon fille, au festival. Ce qui est important pour moi, c'est de retrouver la paix le plus tôt possible.
Une paix souhaitée par l'ensemble des artistes avec qui la programmatrice a pu échanger lors des premiers jours du festival.
Le Festival Cinéma d'Iran, c'est jusqu'à mardi prochain au cinéma Nouvel Odéon à Paris. Bruno Retailleau n'a pas hésité à communiquer sur les opérations de police menées ces derniers jours. Le ministre de l'Intérieur, qui a fait de la lutte contre les migrants l'un de ses combats. 4000 membres des forces de l'ordre ont donc été mobilisés mercredi et jeudi à travers la France pour contrôler d'éventuels clandestins dans les gares, les trains et les bus. En deux jours, 620 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés. Mais cette opération est aussi très critiquée, Lou Momej, notamment pour son caractère discriminatoire.
Les clandestins ne sont pas les bienvenus en France. Le message de Bruno Retailleau est clair. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu gare du Nord à Paris pour le lancement de son opération de contrôle mercredi matin. Le cofondateur de l'association Utopia 56, Yann Manzi, était aussi sur place pour protester et lui dénonce des contrôles au faciès.
C'est des contrôles qui concernent quand même des personnes d'origine africaine ou d'origine des pays du Moyen-Orient. Moi, j'étais garde du Nord, donc j'ai pu voir. Hein, ils ont évacué les soutiens avant l'arrivée de M. Retailleau pour qu'on ne puisse pas crier notre rage à la réalité de, quelque part, ces rafles. C'est pas pour rien que ces mots ressortent. Ça nous rappelle une certaine époque sale de notre histoire.
Par son caractère discriminatoire, cette opération pose aussi un problème juridique. Plusieurs syndicats ont déposé un recours devant le Conseil d'État pour tenter d'abréger ces contrôles, mais en vain. Un regret pour Judith Krivine, la présidente du syndicat des avocats de France, s'inquiète d'une dérive à l'extrême droite.
C'est un des exemples parmi tant d'autres d'une politique d'exclusion, de stigmatisation de l'étranger. On essaye de faire glisser dans le cerveau des gens que tout ce qui se passe serait la faute des étrangers. Et en même temps, ça permet de laisser de côté les difficultés sociales, les questions d'environnement, etc. On a l'impression que le gouvernement actuel, qui était censé faire barrage à l'extrême droite, mais qui en réalité lui fait un tapis rouge, Prends exemple sur Trump.
Avec notamment des contrôles migratoires de plus en plus mis en scène. Par exemple, avec ces images, il y a quelques jours, de policiers sur la côte d'Opale qui se jettent à l'eau, boucliers et gaz lacrymogène en main pour empêcher des migrants de prendre le large.
Un mot très bref de la météo. Après une nuit quasiment tropicale, le mercure baisse. C'est la fin, en tout cas la fin du pic de la vague de chaleur. Deux départements seulement sont en vigilance orange canicule, le Rhône et l'Isère.